Oh non, monsieur, avec Jupiter et Uranus en Sagittaire, je ne vois aucun cambriolage chez vous dans un avenir proche.
Vous êtes sûr, hein?
Oh, bah tout à fait sûr. Vous savez, les cartes ne mentent jamais, monsieur.
Pour partir tranquille, confiez plutôt votre maison aux professionnels Vérissure. Vérissure par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Par contre, je vois quelqu'un devant chez vous avec un pied de biche en ce moment.
Pardon? Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avant-hier, mardi, la frégate l'Hermione a été accueillie sur les côtes de Norfolk en Virginie à l'issue d'une traversée océanique de quelques 6000 km. Et demain, vendredi, 21 coups de canon salueront son entrée en rade de Yorktown, près de 235 ans après l'arrivée du navire original. Franck Ferrand a décidé de saluer, à son tour, l'exploit de cette équipée. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Voilà une émission qui, je l'espère, va faire plaisir à Catherine qui nous écoute en podcast depuis New York. Et qui souhaitait entendre Catherine, elle souhaitait nous entendre revenir sur la première traversée de l'Hermione. Alors, il y a l'Hermione d'aujourd'hui, si je puis dire, et nous en parlerons tout à l'heure. Et puis, il y a l'Hermione historique, celle de 1780. Nous allons revenir sur tout cela en compagnie de Patrick Villiers, bien évidemment. Et nous serons au téléphone Bénédicte Donnelly, qui est président de l'association Hermione Lafayette.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question je l'ai pas sous les yeux, la question d'un auditeur qui s'appelle Audrey, d'une auditrice, sur les termes bâbord et tribord navigation.
C'est ma faute, en fait. J'ai oublié de signaler Audrey. Je suis vraiment désolé.
Il n'y a pas de mal.
C'est une belle question, en plus, que nous pose Audrey, qui est parfaitement de circonstance. Pour le moment, cap sur l'Amérique, dans les Basques de Monsieur de Lafayette.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand.
À force de raconter toutes sortes de conflits, j'ai fini par comprendre qu'une guerre est toujours la fille ou la sœur d'une guerre précédente. Et dans le cas qui aujourd'hui nous occupe, on peut dire que cette guerre d'indépendance américaine est directement issue de la célèbre guerre de 7 ans qui, quelques années plus tôt, avait mis aux prises la Grande-Bretagne, essentiellement la Grande-Bretagne et ses alliés, et de l'autre côté, la France et sa nouvelle alliée autrichienne. Mais en fait, c'était bien sûr la France qui était au premier rang. Or, vous savez que cette guerre de 7 ans s'est très mal terminée pour la France, puisque au traité de Paris, en 1763, le roi Louis XV a dû céder alors le Canada, la Louisiane. Vous savez, c'est ce que Voltaire saluait d'une manière bien ironique et tout à fait inconséquente, comme quelques arpents de neige, disait-il, mais aussi, bien sûr, les Indes, enfin l'essentiel de nos comptoirs aux Indes. On a déclassé le port de Dunkerque. Bref, désastre pour la France qui sort très mal de ce conflit et qui ne rêve que d'une chose, qui ne rêve que de se venger de la Grande-Bretagne. C'est intéressant parce que, à cette époque, lorsqu'on mène une guerre, généralement, on a ce qu'on appelle des buts de guerre. C'est-à-dire qu'on fait la guerre avec un objectif bien précis, bien déterminé. Or, en l'occurrence, il n'y a pas de but de guerre. Le seul but de guerre que l'on va bien vouloir assumer, c'est celui de gêner, d'ennuyer notre vieil ennemi britannique. Alors, en 1763, on peut dire que l'Angleterre se sent toute puissante et ça n'est pas forcément bien perçu dans les colonies américaines elles-mêmes. L'Angleterre va créer toutes sortes de nouvelles provinces dans l'ouest du territoire américain et le roi George III, déclare que toutes ces provinces sont des réserves indiennes et que les Américains, si l'on peut dire, que les Britanniques qui vivent dans ces colonies américaines ne pourront pas s'y rendre. Et puis alors, on multiplie les impôts, bien entendu, quand je dis qu'on les multiplie, en tout cas on les maintient, on en développe un certain nombre, il y a le fameux Sugar Act, le droit de timbre, enfin, etc. Des taxes que l'Angleterre impose à ses colons d'Amérique et contre leur avis, bien entendu, et contre leur gré. Alors, l'intention du Premier ministre anglais, Lord North, est d'essayer de calmer les choses, de faire diminuer les impôts. Mais néanmoins, le roi George III entend bien montrer qui est le maître. Et on peut dire que sur place, dans ces 13 colonies de l'Est américain, sur place, la couronne britannique est de moins en moins bien acceptée. Ce sera bientôt une sorte de rébellion dans les 13 colonies qui vont peu à peu constituer un congrès qui siège à Philadelphie. Les députés se considèrent désormais comme autonomes, pour ne pas dire même presque indépendants. On va déclarer à la fois l'unité des 13 colonies, ça c'est fondamental, et puis surtout leur indépendance vis-à-vis de la métropole britannique. Inutile de vous dire que Londres ne va pas se laisser faire. On envoie immédiatement des troupes, qui ne sont pas tendres, évidemment. De leur côté, les Américains, si vous me permettez de les appeler ainsi, vont lever, on les appelle les insurgents à l'époque, on a directement repris le terme sans même vraiment le traduire. Et ces insurgents vont lever des milices, ils constituent des dépôts d'armes. Bref, c'est le début d'une guerre qui est en train de se mettre en place, avec un certain nombre de figures qui émergent du côté des insurgents, à commencer par un gentilhomme de Virginie qui va beaucoup faire parler de lui, évidemment, c'est George Washington. Alors, c'est le début d'un conflit avec le blocus de Boston, le principal port, hein, c'est véritablement, on peut dire que c'est la porte d'entrée dans les colonies américaines à l'époque, une offensive contre le Canada, l'Angleterre intensifie la guerre, et les pauvres Américains, si je puis dire, vont envoyer des émissaires en Europe en essayant d'obtenir des soutiens. Et de qui est-ce qu'on demande essentiellement des soutiens? Évidemment de la grande puissance ennemie de l'Angleterre, évidemment de la France. Alors à cette époque, le roi Louis XV vient juste de mourir. On a un tout nouveau roi qui vient de monter sur le trône. Alors je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de 1774 et de l'avènement du roi Louis XVI, mais il faut savoir que Louis XVI va remettre au pouvoir un certain nombre de vieux ministres, si je puis dire, des gens que Louis XV avait évincés depuis longtemps. Je pense évidemment avant tout au comte de Maurepas. Et puis il a surtout, Louis XVI, il a surtout un ministre des Affaires étrangères, le comte de Vergennes, qui va peut-être influencer par un certain nombre de bons esprits. Je pense à Beaumarchais, bien entendu, qui dans cette affaire a joué un rôle essentiel. Beaumarchais avait des intérêts hein, dans cette histoire, mais enfin, ça nous entraînerait très loin. Toujours est-il que Vergennes et un petit groupe autour de Vergennes va se mettre à convaincre Louis XVI de la nécessité d'aider l'Amérique. Or, le 4 juillet 1776, ça c'est une date de l'histoire universelle, le 4 juillet, vous savez que c'est un jour férié aux États-Unis bien entendu, ce 4 juillet 1776, les 13 colonies vont proclamer leur indépendance, elles accèdent quasiment à la souveraineté, Louis XVI envoie une escadre qui est commandée par Duchafaut. Il envoie cette escadre aux Antilles avec l'ordre d'aider les Américains, mais sans trop le montrer. On n'est pas encore dans une déclaration de guerre tout à fait claire. Il faut vous dire que à Versailles, on a reçu Benjamin Franklin à l'époque. Il est à Versailles la première fois le 28 décembre 1776. Il est reçu plutôt en audience officielle le 5 janvier 1777. Et là, Louis XVI s'engage un peu plus. 2 millions de livres qui sont littéralement cédés aux insurgents. Un secours immédiat de 30 000 fusils de guerre, c'est là qu'intervient Beaumarchais. Et une aide de 8 vaisseaux de ligne, ce qui est quand même beaucoup pour essayer de protéger ces côtes américaines contre les agressions anglaises. 1777 n'est pas une bonne date, il faut bien le dire. Il y a la chute de Philadelphie, le Congrès est obligé de s'enfuir à Baltimore. C'est pourtant cette année-là qu'arrive un certain Lafayette. Tiens, après tout, et si nous parlions de Lafayette ?
Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et quand vous le souhaitez, vous pouvez réagir, nous envoyer vos messages, vos questions, vos suggestions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag CDH par mail europe1.fr et puis via la page Facebook de l'émission. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur l'Hermione et sur la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
À bord de l'Hermione cet après-midi, vous relatez, Franck Ferrand, l'intervention de Lafayette et de la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis.
Et oui, cette guerre d'indépendance américaine qui donc naît d'une simple rébellion, on va dire, au milieu des années 1770 et qui va prendre peu à peu de l'importance sous l'effet, évidemment, de l'intervention des Français dans le conflit. Alors, qui est-il, ce Lafayette ? Ben, j'ai eu l'occasion de vous en parler ici même, avec Patrick Villiers, du reste. Nous avons évoqué ce jeune gentilhomme milliardaire. Je vous avais dit à l'époque, c'était un peu le Largo Winch de l'époque. C'est vrai qu'il est assez étonnant puisqu'il est orphelin, très très riche. Il est d'origine auvergnate hein, et il se retrouve dans cette situation incroyable à 14 ans. Évidemment, ça intéresse un certain nombre de grandes familles de l'époque, à commencer par le principal ami du roi Louis XV, disons-le, le duc d'Ayen, qui est premier gentilhomme de la chambre, un très très haut personnage de la cour, et qui va choisir ce jeune homme pour mari à sa fille, sa seconde fille, Adrienne. Donc ils se marient l'un et l'autre à 16 ans, vous imaginez. C'est un des plus grands mariages de la fin de l'Ancien Régime. Il faut dire, la dot de la jeune fille est de 400 000 livres. Je ne sais pas si vous imaginez la gigantesque fortune. Enfin, on est là dans ce qu'on appelle la très très haute société. Alors en fait, la famille ne paiera jamais cette dette, comme le fait remarquer Patrick Villiers, certes. Mais enfin, c'est pour vous dire dans quel monde on se situe. On se situe vraiment là dans la très très haute société. Et le duc d'Ayen en a assez de voir son gendre faire les 400 coups, d'ailleurs avec, entre parenthèses, avec le vicomte de Noailles, qui est de sa propre famille, enfin peu importe. Toujours est-il qu'il les envoie tous les deux en garnison à Metz, ça leur fera les pieds à ces deux garnements. Et c'est à Metz, j'avais eu l'occasion de vous raconter ça il y a quelques mois, rappelez-vous, c'est là que le jeune Gilbert, le jeune Lafayette, va assister à une soirée qui est donnée en l'honneur du duc de Gloucester, c'est-à-dire le frère du roi d'Angleterre, et au cours de cette soirée, il est question des fameux insurgents d'Amérique. Et ça fait, évidemment, ça fait rêver ce jeune homme qui se dit « voilà où ça se passe », comme on dirait aujourd'hui. C'est là-bas, c'est la grande aventure, c'est l'Amérique, il faut partir là-bas. Alors, on sait depuis que Lafayette a sans doute été fortement influencé par la loge maçonnique à laquelle il appartient, qu'il a été par ailleurs directement influencé par les services secrets de l'époque, ce qu'on appelle le secret du roi. Bref, il y a un certain nombre de personnes qui ont repéré le larron et qui ont vu quels étaient son potentiel et sa fortune et qui vont essayer de s'embarquer, si je puis dire, dans son sillage. Mais toujours est-il que Lafayette, alors je vous passe tout un ensemble de circonstances, de péripéties rocambolesques, parce qu'évidemment la belle famille ne veut pas du tout le voir partir en Amérique, et d'autant moins que sa femme est enceinte, vous imaginez. Mais il va trouver le moyen de fausser compagnie à son beau-père, de rejoindre un port d'Espagne, de partir quand même. Enfin bon, bref, il fait la traversée jusqu'en Amérique. Il arrive là-bas en croyant sans doute qu'il va être accueilli en héros. Et quand il met le pied à Georgetown, en Caroline du Sud, il fait jurer un peu comme on le faisait dans l'Antiquité. Il faut vous dire que ce jeune Lafayette est nourri de lectures antiques. Il fait jurer à ses compagnons de vaincre ou de périr avec la jeune République. Il en a plein la bouche. Hein. On est vraiment dans les grands idéaux à la romaine, etc. En vérité, il est très modestement et très moyennement reçu, il faut bien le dire, en Amérique. Il est reçu très fraîchement par le Congrès, qui, entre parenthèses, finit par l'admettre comme major dans l'armée américaine, dans l'armée des insurgents, mais major servant à ses frais, s'il vous plaît. Donc, on ne se mouille pas, si j'ose dire. Et quant à Washington, on a longtemps cru, on a d'ailleurs fait, il y a énormément de tableau hein, qui représente Washington ouvrant les bras pour accueillir Lafayette et le serrer sur son cœur, etc. En fait, tout ça, passez-moi l'expression, mais tout ça, c'est du pipeau, puisque on s'est rendu compte, lorsqu'on a eu accès à un certain nombre de documents et notamment de souvenirs de Lafayette lui-même, que le général en chef, Washington, avait reçu lui aussi très fraîchement Lafayette, qui avait d'ailleurs été très déçu. Bref, je vous passe tous les détails. Il y a une grande bataille, la bataille de Brandywine, au cours de laquelle Lafayette est blessé. Il reçoit deux balles à la jambe, enfin une surtout qui va le blesser assez gravement. Philadelphie dans la foulée est perdue, donc il faut imaginer la population, les insurgents qui se réfugient comme ils peuvent, qui prennent le maquis si j'ose dire, ils se réfugient dans les collines. Lafayette est emmené à Bristol, c'est une véritable guerre civile qui est en train de se mettre en place à l'époque. Il faut imaginer la très grande violence de cette guerre d'indépendance américaine. Le 4 octobre 1777, Washington attaque les Anglais qui s'étaient retranchés autour de Philadelphie avec des pertes pertes considérables de son côté, mais aussi dans les rangs anglais. Et à ce moment-là, Lafayette va le rejoindre, alors que sa blessure n'est même pas encore cicatrisée. Vous voyez le côté un petit peu, héros, si je puis dire. Or, survient, je vais un peu vite en besogne, j'en suis conscient, le 17 octobre, la célèbre bataille de Saratoga. Alors quand vous êtes aux États-Unis, là vous pouvez parler de Saratoga, vous verrez tout de suite les larmes monter aux yeux des Américains. C'est tout à fait extraordinaire parce que à ce moment-là, c'est la première fois que les Anglais reculent devant les insurgents. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental, bon, d'abord parce que c'est sur un plan tactique, ça n'est pas négligeable et ça va marquer un basculement dans ce conflit. Mais surtout, ça marque un changement total du regard que le monde entier, et tout spécialement le château de Versailles, c'est-à-dire la direction des affaires françaises, vont jeter sur cette guerre. Parce qu'à partir de Saratoga, on s'est dit, mais après tout, et s'ils gagnaient, ces Américains, et s'ils étaient capables de gagner? Louis XVI en est convaincu, et bientôt, la France va officiellement s'engager dans la guerre. Il y a ce traité qui est signé, traité d'alliance signé par Conrad Alexandre Gérard pour la France et par Franklin, Silas Dean, bien sûr, et Arthur Lee pour les États-Unis, le 6 février 1778, à l'hôtel de Coislin. L'hôtel de Coislin, c'est place de la Concorde, bien entendu. Ce qu'on appelle, nous, la place de la Concorde, qui à l'époque était la place Louis XV. Un traité offensif d'alliance qui prévoit d'ailleurs une paix éternelle entre les deux pays, entre la France et les États-Unis. Pour l'instant, nous sommes quelques 270 ans plus tard, à l'exception, il y a eu un petit épisode à la fin du 19e siècle, mais globalement, c'est un traité qui a été respecté. Le 13 avril 1777, une flotte avait quitté Toulon, ça il faut le signaler, c'est l'escadre de l'amiral Destin. Alors je ne veux pas revenir là non plus sur l'amiral Destin, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne va pas faire vraiment d'étincelle au Nouveau Monde, l'amiral Destin. Le 19 avril 1779, c'est le traité entre la France et l'Espagne. Ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, pour contrebalancer la très puissante marine britannique, la France qui n'avait à peu près que la moitié, qui pouvait aligner à peu près la moitié des vaisseaux de ligne de l'Angleterre, ne peut que s'allier à une autre puissance maritime, en l'occurrence une puissance familiale, puisque là, on est directement dans l'alliance des Bourbons. On va s'allier avec l'Espagne. Avec déjà de grandes perspectives, des perspectives directement du côté britannique.
Bande originale du film The Patriot, composé par John Williams. Vous restez avec nous sur Europe 1. On vous retrouve, Franck Ferrand, dans un instant, pour continuer de parler de l'intervention de la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Au cœur de la guerre d'indépendance des États-Unis avec vous, Franck Ferrand, et vous nous racontez l'intervention de la France en 1778.
Et oui, et Lafayette s'est rendu compte que ce pauvre amiral Destin était très timoré, très prudent, ne serait pas du tout à la hauteur. D'ailleurs, ça agaçait considérablement l'état-major des insurgés américains, qui avait demandé carrément à Lafayette d'intervenir auprès du gouvernement français pour faire savoir que cet amiral Destin ne faisait pas du tout l'affaire. Lafayette s'est dit que cette escadre ne suffirait pas, qu'il était grand temps de reprendre les choses en main et qu'il allait falloir intervenir sur le continent européen lui-même. C'est ça sa grande idée. Et c'est la raison pour laquelle il va reprendre le bateau, mais dans l'autre sens cette fois, retraverser l'Atlantique, se retrouver à Versailles pour devenir en quelque sorte le porte-parole de Washington et des Américains sur place. Et expliquer à Vergennes, expliquer aux différents ministres qu'il était indispensable d'intervenir sur le continent européen, qu'il faut en gros relancer la guerre contre l'Angleterre. Et Lafayette se dit, n'est pas le seul, qu'évidemment si la France se relance dans une guerre contre l'Angleterre, eh bien l'Angleterre n'aura plus du tout les mains libres en Amérique et qu'elle fichera la paix, si je puis dire, à ses colons américains. C'est tout à fait son idée. Et donc, il fait partie de ceux qui sont favorables à un débarquement de la France sur les îles britanniques même. C'est le grand projet de 1779. Et c'est la raison de ce traité d'alliance d'avril 1779, le traité d'Aranjuez avec les Espagnols. Alors, le problème, c'est que c'était très ambitieux et sans doute un peu utopique tout ça, puisque en 1779, les grands projets de la France tournent court. Ce débarquement, on va en parler dans un instant avec Patrick Villiers, tout ça est un véritable fiasco. Et à ce moment-là, on se dit, mais quoi faire ? Puisque la guerre à l'échelle européenne est totalement favorable à l'Angleterre, est-ce qu'il ne faudrait pas de nouveau aller aider directement les pauvres insurgents américains ? Et ça va être l'origine de la création de ce fameux corps expéditionnaire français. Alors là, on rigole plus du tout puisqu'on envoie des troupes sur place qui vont aller combattre aux côtés de ceux que j'ai appelés les Américains contre la puissance mère britannique. Vous imaginez un peu l'engagement. Alors, Lafayette se dit, cette fois, c'est mon heure, parce qu'il y a une ambition chez ce jeune homme qui est complètement démentielle, hein, il faut quand même le dire. Il se dit, cette fois, c'est pour moi. C'est moi qui vais diriger ce corps expéditionnaire, dont j'ai eu l'initiative, en quelque sorte, même si ça n'est pas tout à fait vrai. Toujours est-il que le roi Louis XVI et ses ministres ne sont pas d'accord. Ils estiment qu'il faut un homme beaucoup plus rassis, beaucoup plus expérimenté, qui ait la confiance directe de Versailles, et ils vont nommer le comte de Rochambeau pour aller mener ce corps expéditionnaire. Ça agace souverainement Lafayette, et c'est dans ces circonstances-là, dans un jeu qui est une sorte de course de vitesse à celui qui arrivera le premier de nouveau de l'autre côté de l'Atlantique au secours des Américains, que l'on va voir Lafayette se rembarquer. Et là, c'est un deuxième embarquement qui a lieu sur un certain navire qui est une frégate, n'est-ce pas, et qui s'appelle l'Hermione. On a envie de dire tout ça pour en arriver là. Bonjour Patrick Villiers.
Bonjour Franck.
Alors nous allons revenir sur toute cette histoire, nous allons revenir sur la traversée de cette première Hermione et puis nous dirons aussi quelques mots de la seconde qui est en train d'arriver en ce moment même aux États-Unis.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
À bord de la frégate l'Hermione cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez le professeur des universités Patrick Villiers, docteur ès-lettres en histoire maritime et vice-président de la Société française d'histoire maritime.
Alors Patrick Villiers, nous allons revenir sur tout le contexte politique et notamment sur les chefs qui vont être déterminants dans cette victoire américano-française, si je puis dire, sur l'Angleterre. Mais avant cela, suivons le petit Gilbert Mottier de Lafayette qui vient d'arriver. Je dis petit, il commence à devenir assez important. Il est devenu quasiment un héros du Nouveau Monde, en tout cas il veut le faire croire. Il arrive à Rochefort et pourquoi est-ce qu'il embarque sur cette frégate, précisément sur cette Hermione ?
Alors, il faut savoir que les vaisseaux de guerre coûtent très très cher et que chaque nation économise en construisant des frégates. Alors, la frégate, ça coûte moitié moins cher qu'un vaisseau, mais ça a les mêmes dimensions. Ça a 300 hommes au lieu d'en avoir 750. Et les Français ont 34 frégates, mais les Anglais en ont 60. Et,
voilà.
Et donc, les Français vont construire...
Toujours ce rapport de force.
Alors, les Français vont construire beaucoup plus de frégates. Ils vont construire 50, pendant que les Anglais vont faire 30. Et Rochefort va être le grand pôle de construction de ces frégates, avec également Saint-Malo.
Il faut imaginer ce que peuvent être ces zones portuaires qui sont des fourmilières où on fabrique jour et nuit à toute vitesse des navires pour fournir à la guerre.
Oui, on l'oublie complètement, mais l'arsenal est le lieu industriel par excellence jusqu'en 1890. Il faut imaginer qu'on a, selon les arsenaux français, de 5000 à 12000 ouvriers qui travaillent. Pendant qu'on construit l'Hermione, on a construit simultanément 3 vaisseaux de 74 canons, 3 autres frégates. Ça, c'est pour Toulon. Ça, c'est pour Rochefort. Mais on en a autant à Toulon, autant à Brest.
Et à chaque fois qu'il y a un grand bagne, d'ailleurs.
Voilà. Et ensuite, il faut réarmer les autres vaisseaux de guerre. Parce qu'on a livré la victoire de 1778. On a 50 vaisseaux de guerre français à réarmer. Et puis en 1779, on a voulu ce débarquement en Manche qui a failli réussir. C'est l'épidémie qui va tuer 10 000 marins français qui fait que le d'Orvilliers ne donne pas l'ordre de débarquer. Alors que Lafayette, Rochambeau, sont au Havre et à Saint-Malo prêts à traverser. Il faut imaginer, au service historique de Vincennes, on a des registres entiers avec navire de commerce par navire de commerce. On a mobilisé 300 navires de commerce pour transporter avec les chevaux.
C'est un
la
immense
paille.
Débarquement.
Il faudrait prêt, faire... il a failli réussir. Les Anglais le reconnaissent eux-mêmes.
Il faudrait
c'est l'épidémie
faire
qui sauve l'Angleterre.
Depuis 1066, toutes les tentatives qu'il y a eu de débarquement en Grande-Bretagne.
Mais il y en a plus qu'on réussit. Hein.
Eh oui, c'est vrai.
On en oublie beaucoup.
Alors,
hein.
Lesquels?
Ah bon, alors, par exemple, le prétendant en Écosse deux fois.
Oui,
En
très
Irlande,
petit débarquement, sans lendemain, oui.
Non, mais, on débarque. Après, que les Anglais se soulèvent pas ou les Écossais se soulèvent pas pour soutenir les Anglais, leur prétendant, c'est un autre sujet. Nous, on a débarqué. Après, il faut y rester.
Oui, bien sûr. Alors, en l'occurrence, c'est un débarquement complètement raté. Et donc,
mais les troupes sont là. Et donc, notamment Rochambeau.
Voilà. Alors, c'est le Rochambeau, on va l'utiliser.
Voilà. Donc, d'abord, c'est un commandant très brillant. Ses troupes sont aussi très brillantes. Donc, on trouve Saintonge, Soissonnet, Lauzin, etc. L'idée aussi, c'est que les représentants français aux États-Unis disent que les insurgents sont à bout de souffle. Pensez qu'en février 1779, quand on écrit, il y a... pour nourrir les insurgents américains, ils reçoivent normalement $20 papier. Mais comme il y a une crise du dollar papier, la réalité du dollar papier, c'est 2 cents. Donc, il n'y a plus que 3500 soldats autour de Washington.
Oui, ça devient
contre 30 000 troupes anglaises,
oui.
Enfin, qui sont d'ailleurs des troupes prussiennes.
Oui, d'ailleurs.
Bon, donc,
ce sont
donc
des mercenaires.
Voilà, il faut absolument
manière.
Un renfort français.
Oui. Ce renfort, il va arriver. Lafayette fait partie de ceux qui repartent, en quelque sorte. Je vous ai posé la question, pourquoi choisit-il l'Hermione?
Ah, ce n'est pas lui qui est choisi, c'est le roi. Alors d'ailleurs, Lafayette ne cesse d'envoyer des courriers en disant « il faut que je sois au courant de tout, parce que vous comprenez, si je débarque aux États-Unis et que je ne suis pas au courant, je vais passer pour une bille. Hein » Et alors, la lettre d'instruction est « vous embarquez sur l'Hermione ». Vous ne communiquerez qu'à Washington et vous verrez qu'à Washington ce qu'il faut donner comme information au Congrès, car on a peur que les membres du Congrès parlent aux loyalistes américains. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, il y a 15% de révoltés, et puis 30% de loyalistes, et puis le reste, ce sont des indifférents.
Bien sûr.
Donc, il n'est pas dit, d'ailleurs, il y a des espions au Congrès, donc il ne faut pas leur donner les informations. Donc Lafayette, en fait, c'est lui qui aura le secret du débarquement qui se passera à Newport.
Il faut avoir l'idée des durées. Nous avons mis combien, 17 ans pour rebâtir la deuxième Hermione, là. À l'époque, avec une toute autre main-d'œuvre, évidemment, et une toute autre urgence, on avait mis 6 mois à peine.
C'est extraordinaire. Oui. L'Hermione, ce qui montre le degré d'excellence des arsenaux français. Et d'ailleurs, les navires français de cette époque vont être magnifiques.
Et la traversée, est-ce qu'on peut comparer les deux traversées, celle de 1780 et celle d'aujourd'hui?
Alors oui, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, j'ai comparé les journaux de bord. Alors, en fait, normalement, on peut aller plein ouest. Bon. Sauf que Lafayette va affronter le mauvais temps et Latouche-Tréville, dans le journal de bord, indique qu'il a dû passer au sud des Açores alors que normalement il aurait dû aller plein ouest. D'ailleurs, il y a une frégate qui le suit qui s'appelle la Sensible avec à bord la Luzerne. Elle va pouvoir faire un cap plein ouest. Bon, mais donc ils vont mettre beaucoup plus de temps et affronter la tempête.
Il y a un nom que vous avez cité, c'est Latouche-Tréville.
Oui.
C'est le capitaine.
Alors Latouche-Tréville est un capitaine extraordinaire, c'est le fils de Levasseur de Latouche, le commandant du port de Rochefort, qui a eu des malheurs parce qu'il défendait la Martinique en 1762 quand les Anglais l'ont prise. Et donc on l'a suspecté de ne pas avoir bien défendu la Martinique et sa carrière militaire a été brisée. Et c'est Louis XVI qui lui redonne du pouvoir en le nommant commandant du port de Rochefort, nous dirions aujourd'hui préfet maritime. Oui. Et il va être un extraordinaire préfet maritime, il va coordonner les convois, il va relancer la construction navale, ça va être un très très brillant.
J'aimerais bien évidemment que nous puissions entrer dans les détails de tous les combats qui vont mener à la victoire des insurgents sur les Anglais, hein, ce moment extraordinaire de Yorktown, bien entendu, qui est devenu fondateur dans l'histoire des États-Unis. Mais à défaut, est-ce qu'on peut suivre les combats depuis l'Hermione, si je puis dire? Quel est son parcours et quel est son rôle dans
Alors,
cette affaire?
L'Hermione est justement le navire phare de la présence française parce que elle annonce d'une part l'arrivée de l'escadre française Sternay qui vient soutenir Rochambeau parce que les Anglais ont trouvé un truc, ils déplacent leurs troupes avec leur flotte de guerre tandis que les insurgents doivent tout faire à pied. Donc sans un support naval, on peut pas. Donc il y a un blocage déjà, on protège Newport et Boston par l'escadre française de Ternay et puis ensuite avec les frégates et de temps en temps l'escadre, on va essayer d'attaquer les Anglais pour les empêcher eux-mêmes soit de ravitailler, soit de poursuivre le commerce avec les loyalistes.
Ce qu'il faut dire, c'est que la stratégie avait consisté à laisser les Anglais reprendre possession du Sud, en quelque sorte, pour vider un tout petit peu les...
Oui, enfin, la stratégie est plus subie que voulue. Hein.
Oui. Puisque ces événements nous échappent, feignons d'en être les organisateurs.
C'est ça, exactement. Donc, il reste un pôle très fort des insurgents autour de la Virginie, mais effectivement, les Anglais ont repris Charleston, ils sont en train de ravager la presqu'île, et donc, pour lutter contre les Anglais, il y a deux moyens. Ou on attaque New York, ou on attaque en Virginie. Bon. Et Lafayette voudrait New York, Washington voudrait New York, mais Terney et Rochambeau disent non, New York c'est pas possible, il faut créer une divergence. Et c'est De Grasse qui va imaginer le plan qui va aboutir à Yorktown.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous nous dites bien Terney, Rochambeau, De Grasse. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, Versailles est trop loin pour tout ça. Aujourd'hui, nous sommes habitués à ce que le politique commande aux militaires, bien entendu, presque dans l'instant, hein, avec des moyens technologiques tels que c'est quasiment les présidents eux-mêmes qui appuient sur la gâchette. À l'époque, il y a une telle distance et une telle durée dans les communications, une telle lenteur dans les communications, qu'on donne une certaine autonomie, plus ou moins grande, au chef d'unité. Or, en l'occurrence, il y a un ministre dont il faut absolument citer le nom, parce qu'il va jouer un rôle essentiel, c'est Castres.
Oui, alors Castres est un militaire et un général qui s'illustrait pendant la guerre de 7 ans, alors que Sartine, comme vous le savez, c'était le lieutenant général de police, qui était un très brillant organisateur.
Ancien ministre de Louis XV.
Voilà, très très brillant. Mais le problème de Sartine, effectivement, c'est un problème de choix des hommes. Il a choisi des bons militaires, mais qui manquaient d'initiative. Et donc, en fait, c'est tout le problème. Jusqu'où laisser les initiatives aux militaires? Et Castres nomme des militaires en leur donnant ordre de prendre leurs responsabilités.
Carte blanche.
Carte blanche, mais en même temps, si vous avez l'échec, on vous loupera pas.
Oui, ça, bien entendu. Ça, c'est toujours la deuxième partie de la phrase. On oublie parfois de la préciser.
Et donc, De Grasse va être extraordinaire parce que c'est De Grasse,
l'amiral De Grasse,
qui va donc imaginer de prendre les troupes des Antilles, de débarquer dans la Chesapeake. Alors, la Chesapeake, justement, c'est Norfolk, là où est l'Hermione. Donc, c'est une baie extraordinaire qui est contrôlée par une entrée et les Français, il faut la prendre. Donc, c'est où les Français ou les Anglais. Et les Français vont prendre la Chesapeake et en étant à l'entrée de la Chesapeake, ils bloquent. Et la bataille de la Chesapeake du 5 septembre, ça consiste en fait à repousser la flotte anglaise qui ne peut plus ravitailler Yorktown. Et à partir de ce moment-là, le siège peut commencer. Et à Yorktown, il y a bataille, effectivement. Lafayette va monter à l'assaut de la redoute d'Ose. Mais fondamentalement, les Anglais se rendent parce qu'ils n'ont plus de ravitaillement. Oui. Donc c'est la marine française qui a coupé le ravitaillement. Elle a gagné la bataille de l'Atlantique.
C'est quand même terrible, parce que c'est bien la marine française qui va, qu'on le veuille ou non, et quelle que soit la façon dont on tourne les choses, qui va donner la victoire au camp américain. Complutant. Donc, dans cette origine des États-Unis, qui était indépendant depuis 1776, mais dont le traité d'indépendance ne sera signé à Versailles qu'en 1783, l'intervention de Louis XVI et de ses troupes est absolument essentielle.
Elle est décisive. Elle est décisive, et Washington le dira, mais il y a aussi une chose tout à fait intéressante. Les Américains donnent régulièrement le nom de De Grasse à leur navire de guerre en hommage à la marine française.
Bien sûr.
Et donc l'arrivée de l'Hermione est passionnante sur le plan historique parce qu'elle va rappeler aux Américains le rôle de la présence française.
Alors là, l'Hermione dont vous parlez, attention, ça n'est plus l'Hermione de 1780, c'est celle d'aujourd'hui, nous y venons justement dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Symbole de plus de deux siècles d'amitié franco-américaine, la frégate l'Hermione et sa réplique qui vient d'arriver aux États-Unis sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le professeur des universités Patrick Villiers, doctoresse lettres en histoire maritime et vice-président de la Société française d'histoire maritime.
Alors Patrick Villiers, il y aurait tant à dire sur l'Hermione. Elle va quand même ramener cette frégate, les troupes victorieuses en France, il faut le dire. Retour à Rochefort.
Tout à fait. Mais elle va d'abord passer au bassin de Radou parce qu'elle a besoin de longues réparations au bout de 18 mois hors de toute base navale. Il faut voir aussi la qualité extraordinaire. Vous imaginez ces bateaux qui sont pendant 18 mois, elle affronte les glaces, elle se bat à Louisbourg, donc c'est un bateau extraordinaire. Elle revient, mais après elle va repartir. Elle repart aux Indes, elle va repartir aux Indes, rejoindre Suffren, et donc ne va revenir...
Non, on est parti dans l'océan Indien, en fait.
Donc, parce qu'on continue à se battre contre les Anglais, et donc c'est toutes les victoires de Suffren... aussi célèbre
vous dites
que vous
Suffren,
savez.
Vous, moi je disais Suffren, mais il faut dire Suffren.
Oui, je me suis fait reprendre par plusieurs amiraux, on dit Suffren dans la marine française.
Bon, très bien.
Et donc, L'Hermione revient en 1784. Là, elle va être désarmée parce que c'est la paix. Et elle va être réarmée à la Révolution française. Et elle va être affectée à la défense de Nantes, qui est, comme vous le savez, dans la guerre de Vendée, dans la guerre des Chouans, etc.
Et alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas l'épisode le plus brillant de sa courte carrière.
Oui, parce qu'effectivement, elle est armée par le capitaine Martin, qui est un bon capitaine, mais la tradition veut que quand on navigue près des côtes, on a un pilote à bord. Et le pilote, en sortant de Nantes, se trompe d'amer, et l'Hermione va échouer sur le banc du four et la faire naufrage. Mais attention,
qui était totalement inexpérimenté. Ou...
Non, mais alors dans le journal de bord de l'Hermione, Latouche Tréville explique que au large de l'île de Ré, le pilote se trompe d'amer et que il dit bien, j'ouvre les guillemets, j'ai refusé d'écouter ce que disait le pilote et malgré ses objurgations, j'ai ordonné qu'on vire de bord. Donc les pilotes sont capables de se tromper. Et après, c'est le commandant qui accepte ou non le pouvoir du pilote.
Oui, et le commandant, en l'occurrence, n'a pas du tout bien
Il a cru que le pilote avait raison.
Notre Hermione fait naufrage le 20 septembre 1793.
C'est ça.
Donc on est vraiment au cœur même de la Révolution et il y a déjà plus d'Hermione, si je peux
voilà,
dire.
C'est la fin.
On l'a retrouvé d'ailleurs. Hein,
oui, et on a retrouvé, c'est intéressant parce qu'on a retrouvé deux canons et on a retrouvé l'encre. Et les canons sont aujourd'hui au musée de Nantes, malheureusement dans une réserve, on ferait mieux de les sortir.
Ah ben là maintenant oui, j'imagine voilà. Qu'ils vont pas rester très longtemps dans les réserves étant donné
la
célébrité de la petite sœur, parce qu'alors il y a eu cette idée qui remonte maintenant à plusieurs décennies de reconstruire l'Hermione.
Les années 1990.
Eh oui. Alors il faut peut-être remettre ça dans le contexte de la corderie royale du grand projet maritime de Rochefort.
Oui, alors il faut savoir qu'en 1944, les Allemands ont dévasté Rochefort et notamment incendié la corderie royale. Et un préfet maritime, nommé l'amiral Dupont, a fait un truc extraordinaire. Il a mobilisé tous les marins, il a mobilisé toute la ville de Rochefort pour qu'on déblaye les gravats. Et ensuite, devant cette ruine, il a mobilisé toutes les énergies pour que la corderie royale soit reconstruite. C'est un bâtiment magnifique.
Magnifique.
Et à la suite de ça...
Donc, ça, c'est la première étape.
C'est la première étape. Et la deuxième étape, les gens de Rochefort ont dit « Mais les bassins de Radoux qui sont là, on ne peut pas les laisser vides. Il faudrait qu'on construise quelque chose. » Et c'est l'aventure de l'Hermione.
Alors, il y a une association dont nous avons souvent parlé à ce micro, bien entendu, car de loin en loin, nous avons suivi cette fantastique aventure de la reconstruction de la nouvelle Hermione. Cette association, c'est l'association Hermione Lafayette, dont le président Bénédicte Donnelly est avec nous au téléphone. Bonjour Bénédicte Donnelly.
Bonjour. Président.
Merci beaucoup de nous répondre et de nous dire peut-être où en sont les hommes de l'Hermione aujourd'hui et les femmes de l'Hermione. Sont-ils en arrivés aux États-Unis?
Là, ils sont dans une escale technique plutôt administrative. Ils viennent d'arriver là, à l'heure où nous parlons. Ils viennent d'accoster dans le grand port militaire de la marine américaine à Norfolk.
On peut imaginer que ça va être un bel accueil de la part des Américains, sans doute.
Alors hein. L'accueil, c'est demain matin, heure américaine,
oui. Ah non, oui.
Et 14h heure française, parce que demain, ils arrivent à Yorktown, qui est, comme le disait Patrick, un lieu très symbolique de la guerre d'indépendance américaine.
À mon avis, demain après-midi, les Français auront plutôt les yeux sur les cours de Roland-Garros que sur l'Hermione, mais on en parlera dans la soirée, ça n'est pas très grave. Alors, cette Hermione, c'est un projet extraordinaire, puisqu'on peut dire que le navire a été... pour l'essentiel, reconstruit dans les conditions qui étaient celles du XVIIIe siècle.
Oui, ça a été, c'était notre ambition, notre projet. C'est un projet de l'Hermione, vous l'avez dit avec Patrick Villiers, c'est un projet qui s'inscrit dans une histoire culturelle, qui remonte à la renaissance de la corderie royale. Et donc pour nous, c'était un projet aussi, un projet culturel, que de reconstruire sur les lieux mêmes où avait été construit le navire d'origine, le bateau dans
les règles de l'art,
la plus authentique possible.
Voilà, c'est ça. Je pense par exemple aux drisses, à tous les filins, etc. Tout ça a été reconstitué tel quel, en fait. On n'a pas utilisé les matériaux modernes.
Hein. Non, contre l'avis d'ailleurs des navigants, qui étaient très réticents. Mm-hmm. Mais on leur a effectivement en quelque sorte imposé de recourir à des matériaux conformes à l'histoire.
Notamment le chanvre, c'est ça, oui.
Et on est allé chercher des compétences qu'on n'avait pas en France, et notamment une formidable équipe suédoise qui avait fait un travail un peu équivalent sur un bateau suédois, le Göteborg.
Avec un équipage un peu réduit par rapport à ce qu'il était au XVIIIe siècle.
Oui, on est 80 ce qui est beaucoup pour l'armateur que je
aujourd'hui,
suis.
Aujourd'hui, c'est beaucoup, oui.
et c'est un nombre que ne connaissent pas nos amis
évidemment.
Du Belém ou autres, qui naviguent des équipages beaucoup plus réduits. Mais à l'époque, Patrick l'a dit, ils étaient 300 à bord, mais il y en avait 120 qui faisaient naviguer le bateau, et on ne pouvait pas descendre en dessous de 120. Donc si nous sommes descendus à 80, c'est parce que nous avons... effectivement fait une petite entorse
oui,
à l'authenticité
voilà.
En nous équipant d'un guindeau électrique. Il fallait à l'époque 100
personnes. Remonter l'ancre, c'est ça
l'encre.
Oui, voilà, c'est ça.
Et nous, il faut quand même 30 personnes parce qu'il faut descendre dans les cales, il faut enrouler les cordages au fur et à mesure, donc il faut quand même 30 personnes. Mais on a pu descendre à 80, mais on ne peut pas descendre en dessous de 80 pour manœuvrer un bateau comme celui-là.
Patrick Villiers me disait hors micro que l'actuel capitaine avait observé un comportement de sa frégate tout à fait similaire à ce qu'on peut lire dans le journal de bord de la Touche Tréville à l'époque, en termes de rapidité, de maniabilité.
Oui, il dit même que finalement les performances dépassent celles qu'il avait pu observer à travers les journaux de bord. Mais je laisse Patrick Villiers, qui est beaucoup plus compétent que moi pour analyser les
performances
comparées.
Le dernier chiffre que j'ai trouvé de la Touche Tréville, c'est 12 nœuds au grand large.
Ah,
et le commandant Cariou m'a dit 12 nœuds 5, peut-être même 13 nœuds dans l'Atlantique.
C'est
mais
formidable
c'est ça.
De retrouver comme ça exactement les mêmes comportements. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup Bénédicte Donnelly. Évidemment que... Nous accompagnons tous, nos cœurs sont avec les membres de l'équipage de cette nouvelle Hermione qui porte haut les couleurs de la France sur les côtes américaines et de Rochefort. Et je ne dirai jamais assez, allez on va le dire une fois de plus, c'est comme Fontainebleau, vous savez il y a quelques serpents de mer dans cette émission. Je ne dirai jamais à quel point il faut aller visiter Rochefort et toutes ces merveilles. Parce qu'il n'y a pas seulement la Corderie Royale, il y a le jardin d'acclimatation, il y a l'extraordinaire maison de Pierre Loti, le pont transbordeur,
le musée
de la marine, enfin, etc., etc. Merci beaucoup. Merci Patrick Villiers. La France sur mer de Louis XIII à Napoléon Ier, c'est un livre de poche, mais c'est un inédit qui sort chez Pluriel, La France sur mer. Donc, merci beaucoup. Nous allons nous tenir au courant de ce que va devenir dans les heures qui viennent notre chère frégate Hermione.
Vous restez avec nous sur Europe 1, au cœur de l'histoire, toujours sur les flots. Franck Ferrand, vous répondrez à la question d'Audrey sur l'origine des termes bâbord et tribord en navigation.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question d'Audrey qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande quelles sont les origines des termes bâbord et tribord en navigation.
Alors, c'est intéressant cette histoire parce que pour tout vous dire, nombreux sont nos auditeurs qui, à mon avis, ne voient pas l'intérêt de ces termes. Puisqu'on dit droite et gauche partout, pourquoi est-ce que dès qu'on est à bord, on parle de bâbord et tribord? C'est la remarque qu'on m'a fait l'autre jour à bord. Vous savez, j'étais en croisière, là. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Alors, il y a une raison très simple. C'est que la droite et la gauche, elles dépendent directement de l'orientation qui est la vôtre, y compris sur le navire. Si vous êtes à la proue et que vous regardez la poupe, eh bien forcément, la droite et la gauche sont inversées. Alors que quand on dit bâbord et tribord, on désigne des points fixes et définitifs. Le référentiel, c'est le navire lui-même. Et donc c'est très important, pour des raisons de précision dans les commandements de navigation, que lorsque le capitaine veut que le navire, par exemple, vire du côté gauche, et qu'il parle de bâbord. Parce que s'il dit à gauche, on peut toujours entrer dans des confusions. Voilà la raison de base. Alors d'où ça vient? Ce sont des termes très anciens qui remontent au moins au 14e, qui sont fixés en tout cas dès le 15e siècle. Dans tribord, bâbord, bâbord, c'est bord, hein. Ça vient de bort en néerlandais, c'est le bord, hein, tout simplement, c'est-à-dire le côté du navire. Mais alors, le tribord, ça vient de steerboard ou steerboard, qui est le steer, c'est l'ancien gouvernail, en fait. Et il faut savoir que, et là, ça nous ramènerait encore aux Vikings, comme l'autre jour, mais le steer, c'est la barre, hein, c'est l'endroit, c'est le gouvernail, pour être tout à fait exact, qui autrefois se trouvait sur le côté du navire et qui se trouvait sur le côté droit du navire. Donc, le steerboard, qui va devenir tribord, c'est l'endroit, le côté où se trouve le gouvernail. Et quand vous manœuvrez le gouvernail sur une petite embarcation, vous tournez le dos, évidemment, à l'autre côté, au côté gauche, si je puis dire. Et donc, l'autre, c'est le backboard, c'est-à-dire l'endroit qui est dans votre dos, tout simplement. Donc, bâbord, ça vient de backboard, tout simplement. Alors, il y a un moyen mnémotechnique bien connu, hein, on raconte ça aux enfants quand ils montent sur les navires, mais vous regardez l'avant du navire, la proue, et vous dites batterie, bas. Donc à gauche, et tri À droite, tout simplement. Je voulais signaler la prochaine parution de l'Hermione, la frégate de Lafayette, avec tiré en partie du journal de la Touche Tréville, un ouvrage de Patrick Villiers qui va bientôt paraître. Et puis bien sûr, n'oublions pas sa magnifique biographie de Lafayette. Il était venu nous en parler il y a quelques temps. Voilà, Patrick Villiers, on peut pas citer tous vos ouvrages, mais en tout cas, le Lafayette mérite véritablement le voyage.